Alors aujourd'hui, nous allons prendre un passage qui se trouve dans Éphésiens. Donc chapitre 5. Versets 8 à 17. Éphésiens 5, 8 à 17. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors nous sommes sur terre pour rencontrer Dieu. Ah, peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais en fait, nous le savons bien, hein, que la vie n'a pas de sens si on ne rencontre pas Dieu. Et pour nous réconcilier avec lui, par Jésus-Christ, celui qui croit en lui est sauvé, il a la vie éternelle, il a trouvé un sens à sa vie, il sait pourquoi il vit. Et je vous propose aujourd'hui de méditer surtout sur le verset 17 de ce passage. Alors, il est important de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Il nous a dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, Christ a dit à ses disciples que l'esprit de vérité les conduirait dans toute la vérité. C'est dans Jean 16, verset 13. Et la première chose que l'on sait concernant la volonté du Seigneur, c'est qu'ayant reçu Christ en croyant l'Évangile, nous devons annoncer l'Évangile toute notre vie. Ce n'est pas au moment de la conversion, hein, seulement. Ce n'est pas peu après, quelques années après, quand on est encore bouillant, mais c'est toute notre vie que nous devons annoncer l'Évangile. Il est dit dans 1 Timothée 2,4 que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons nous employer toute notre vie à annoncer l'Évangile pour le salut des hommes. C'est ce que les premiers chrétiens ont fait, c'est ce que tous les chrétiens ont fait, que nous voyons dans les Actes des Apôtres, quand nous voyons l'œuvre accomplie au premier siècle, quand nous voyons que nous sommes là, c'est parce que les hommes et les femmes qui ont rencontré Christ l'ont partagé aux autres. Et ça nous est arrivé à nous aussi. Donc c'est la volonté de Dieu à notre égard. C'est une chose sûre que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose qui est en option pour certains, pour des spécialistes, pour ceux qui ont le don. Oui, ceux-là, ils sont appelés à prêcher en particulier l'Évangile. Mais annoncer l'Évangile, simplement le transmettre, c'est quelque chose pour tous les chrétiens, c'est la volonté de Dieu. Personne dit j'ai cru à l'Évangile et puis finalement il va se taire toute sa vie, il va pas en parler, il va le garder pour soi, pour lui-même. Ça c'est impossible. Paul dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et c'est pour Paul, pour ceux qui ont reçu un ministère particulier, mais c'est pour tous ceux qui ont cru. Nous devons partager notre joie personnelle d'être sauvés et aussi notre crainte que les autres hommes ne le soient pas. Alors oui, on pourrait être heureux, comme si on jouissait de beaux privilèges, de belles bénédictions de la part de Dieu, mais il faut aussi penser que nous étions dans la boue et nous avons été retirés de la boue pour nous réjouir de l'espérance que Dieu a mise dans nos cœurs. Et cela, bien, nous devons le partager à ceux qui ne l'ont pas, cette espérance. Et c'est donc pour nous des sentiments que nous devons manifester, notre joie d'appartenir, qui se voit, et aussi notre crainte que les autres ne soient pas sauvés. Le chrétien, c'est cela, il le sait. Mais avec le temps, il peut oublier l'importance, l'urgence de cette mission. Il y a certains qui disent « Ah, mais aujourd'hui, on n'évangélise pas comme avant. Avant, on se réunissait dans des tentes. On plantait la tente d'évangélisation dans un lieu et on invitait les gens. Et on n'arrêtait pas d'annoncer l'évangile. Et heureusement, bien, nous continuons d'annoncer l'évangile. Certains vont sur les lieux publics. D'autres, annoncent l'évangile à leur connaissance, dans leur travail. En tout cas, l'important, c'est de ne pas oublier cela. Alors, on peut voir ce que Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut rester ce sel, il faut rester cette lumière qui donne soif du Seigneur, qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et par nos vies, nous pouvons être ceux qui amenons des âmes à Christ. Mais c'est le but, c'est l'appel que le Seigneur nous a donné d'annoncer cet évangile. Nous aimerions que tous les hommes soient sauvés et nous aimerions que Dieu nous utilise pour cela. Nous voudrions plaire à Dieu et être un instrument entre ses mains. C'est pourquoi la deuxième chose qui nous intéresse ici concernant la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que moi je vais faire de ma vie? Que veut Dieu que je fasse? Vous savez qui c'est qui a dit ça? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est l'apôtre Paul. Dès qu'il a eu cette révélation qui l'a foudroyé, bien dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur a répondu, Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et il va être témoin devant les rois, devant les nations. Et donc, voilà la question que Paul a dit au Seigneur quand il a été terrassé par lui. Certains récitent le Notre Père, et dans le Notre Père, il y a cette prière qui dit « Père céleste, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors, bien sûr, eh bien, on peut dire que les autres fassent ta volonté, mais c'est nous qui devons faire la volonté du Seigneur. Et dès le début de notre vie chrétienne, nous devons rechercher quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alors moi, je ne peux pas choisir, dire voilà la volonté de Dieu pour vous. C'est vous qui devez la chercher. Moi, je pourrais vous donner des conseils. Mais voilà pour chacun de nous une recherche personnelle à faire. Il y a certains qui, disons, ne se posent pas cette question. Et puis, voilà, ils vont à l'église, ils lisent la Bible, mais ils disent pas « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est important pour chacun d'être un ouvrier avec Christ, d'être actif. Alors, on peut lire un autre passage dans Colossiens. Au chapitre 1, et versets 9 à 11, il est dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et là, la prière de Paul aux Colossiens, c'était « Bien, nous demandons, nous avons appris que vous marchez avec Dieu, vous le connaissez, vous devez faire des progrès et nous demandons à Dieu que vous connaissiez sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que vous grandissiez et puis pour que vous fassiez face aussi aux circonstances dans la paix du Seigneur. Alors, pourquoi demander la volonté de Dieu ? Dans quel domaine ? Peut-être que nous négligeons de demander la volonté du Seigneur dans certains domaines. Mais le Seigneur veut que l'on examine notre cheminement, nos projets, pour qu'on lui soumette et pour qu'on sache que vraiment le Seigneur veut que nous fassions cela. Que ce soit pour les études, pour ceux qui font des études, qu'est-ce que je vais faire comme étude ? Vous savez, des fois, eh bien, on ne sait pas quoi faire et on va voir un conseiller d'orientation. Pas belle comme ça. Eh bien, notre conseiller d'orientation, ça va être le Seigneur. Hein. Le conseiller d'orientation va dire des choses et puis finalement, on l'aura écouté et il nous amènera dans des choses que nous n'aurions pas dû faire. Alors, le vrai conseiller d'orientation, c'est le Seigneur. Pour mes études, pour un métier. Quel métier ? Alors, que vas-tu faire après le bac ? Alors là, ça, c'est la question que beaucoup de jeunes se posent. Je sais pas, vous avez peut-être suivi maintenant que la fermeture des inscriptions dans les universités sont terminées et que ceux qui ont eu le bac, pour beaucoup, hein, ne peuvent plus s'inscrire nulle part. Il n'y avait pas de place. Alors, voilà. Que vais-je faire ? Alors, pour un métier, qu'est-ce que je pourrais faire qui glorifie le Seigneur ? Pour un travail, qu'est-ce que je vais faire comme travail ? Est-ce que ce travail-là, eh bien, il est pour moi ? Est-ce que ces 15 jours que je vais faire, je dois les faire ? Ou alors, je dois faire autre chose pour une semaine, etc. Donc ce travail, est-ce qu'il glorifie le Seigneur? On peut se demander toutes sortes de questions, mais parce qu'on veut faire la volonté du Seigneur. Alors nous pouvons voir dans Romains 12, 2, ce qu'il est dit. Ce verset que souvent on apprend par cœur avec le 1, hein, Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Faire ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu, c'est ce que le Seigneur veut, en évitant les pièges du diable et de ce monde. Alors, quand j'étais croyant et pas encore sauvé, mais je me suis dit, il n'y a rien de mieux que de croire en Dieu. Puis je me suis converti, mais s'il n'y a rien de mieux que de croire en Dieu, il n'y a rien de mieux que de le servir. Et puis, finalement, ce que je pense être le plus important, ça vaut le coup de donner toute sa vie pour ça. Et le message est tellement merveilleux que j'ai besoin de le partager. Alors, j'étais étudiant, j'étais surveillant dans un collège, et puis je me suis dit, voilà, il faudrait que je serve Dieu. Et comment? Alors, quelqu'un m'a dit, qui faisait un institut, pourquoi tu ne ferais pas un institut biblique? J'ai dit oui, mais je ne veux pas m'envoyer moi-même. C'est pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Alors, j'ai pris ma Bible, je l'ai lue. Mais avant de la lire, j'ai prié, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois pasteur? Et j'ai lu la Bible alors que je ne voulais pas la lire. Et après avoir prié cela, le Seigneur m'a dit, là où j'étais, dans ma lecture, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, il désire une œuvre excellente. Il dit, ah ben ça, hein, pour une réponse, c'est une vraie réponse. Hein. Je demande à Dieu, est-ce que ce qu'il peut m'engager pour longtemps est bon? Il me dit, c'est bien. Après, j'ai dit, bon, mais c'est pas tout, mais où aller, quoi faire? Et puis, il y a un pasteur qui donnait des cours à l'Institut biblique, à 1000 km d'ici, et j'ai eu l'occasion de monter avec lui à un moment où moi j'étais en congé et que je pouvais. Ça tombait là où le moment où il donnait ses cours. Et moi j'étais en congé, et donc je suis monté avec lui. Et j'ai fait mes cours avec lui une semaine. J'ai réussi. Et je me suis dit, bien, c'est bon. J'avais la conviction dans le cœur. J'avais la réponse de Dieu. J'avais les circonstances. Et j'avais lu que quand ces trois lampes s'allument en même temps, c'est bon signe. Alors, juste pour dire, quand je raconte mon témoignage, je dis, j'avais eu une bonne note. Quand j'ai eu le même cours 3 ans après, parce que c'était cyclique, j'ai eu une moins bonne note. Alors, peut-être que ça m'a encouragé d'avoir une bonne note, mais en fait, c'était parce que le Seigneur me montrait que là, j'apprenais la parole de Dieu, et là, eh bien, je pouvais me préparer pour le servir. Et donc, ces choses-là, il faut les demander au Seigneur. Et pour chacun, ça sera un chemin différent. Tout le monde ne va pas aller à l'institut, tout le monde ne va pas faire la même chose, mais en fait, tout le monde va annoncer l'évangile, je parle des chrétiens, et chacun va le servir à sa manière. Dans le psaume 143, 10, il est dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà la prière à faire, que nous pouvons tous faire quand nous sommes à la croisée des chemins, quand nous devons prendre une décision. Et c'est surtout la parole de Dieu qui nous montre ce qui plaît à Dieu. Elle nous montre quelle est sa volonté. quel choix nous devons faire. Parce qu'en fait, on n'invente rien, ce n'est pas des sentiments, des sensations, mais quand la parole de Dieu est claire, elle est claire. Elle nous éclaire. Et donc, elle nous montre vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a des choses, c'est évident qu'on doit les faire. Mais vous savez, toutes les épîtres ont été écrites pour dire des choses évidentes que les chrétiens ne faisaient pas. Donc, à nous de nous plier et de retenir les bons conseils que nous donne la parole de Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Joseph. On peut lire aussi 2 Timothée 3,16. Pardon, 1 Timothée 3,16. Non, je me trompe. 2 Timothée 3,16. C'est ça, 2 Timothée 3,16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ça, c'est important, hein, parce que de nos jours, il y a certains mouvements chrétiens qui disent c'est pas la peine de lire la parole de Dieu. Vaut mieux écouter la voix de son cœur où le Seigneur parle dans le silence. Et finalement, ils vont dire oui, il faut lire la parole de Dieu. Mais en faisant comme ça, ils lisent de moins en moins la parole de Dieu. Et bien, écoutez le message de Joseph de la semaine dernière et vous verrez, on a compris, on a reçu que nous devons lire la parole de Dieu pour être éclairés. Alors, soit la parole de Dieu est claire, évidente, soit elle nous enseigne des principes que l'on peut appliquer et elle va nous guider. Alors, peut-être dans votre vie, ce sera une question importante, hein. Et j'ai noté parmi les questions importantes, c'est devons-nous nous marier? Est-ce qu'on doit se marier? Et avec qui? Alors, la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 6, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, je pense que ce verset est clair. Un chrétien ne doit pas se marier avec un non-chrétien. Et vous savez, ben, je viens de lire un livre d'un pasteur qui était musulman avant, il s'est converti. Et on n'arrête pas de lui téléphoner pour demander est-ce que je peux me marier avec ce musulman? C'est des chrétiens ou des chrétiennes qui se sont convertis. Et lui dit, ben non, c'est écrit. Et finalement, il dit qu'il y a des pasteurs qui disent, bon, ils ne savent pas. Il y a d'autres qui disent, ils n'ont pas de position. D'autres qui ménagent les choses, mais lui dit ça, ce qu'on vient de lire. Et donc, c'est sûr que, eh bien, il dit, Moi, je vous dis ça, vous faites comme vous voulez. Et puis, souvent, il y a des conséquences terribles quand le non-chrétien se marie avec un chrétien. Donc, c'est vrai que le Seigneur peut faire grâce, mais il interdit. Il fait, sa grâce est infinie. Je connais des couples qui ont désobéi et qui, après, l'un ou l'une s'est converti. Puis, heureusement, ça, qu'ils se sont convertis. Mais ils ont désobéi. C'est une grâce qui leur a été faite. Il y a des choses. Ou alors, il y en a qui ne se sont pas posé la question. Et puis, Dieu a fait grâce aussi. Mais il y a des fois où Dieu n'a pas fait grâce, il y a eu des conséquences. Et ça, ça a été difficile. Quand ça ne mène pas au divorce, ça peut amener à une désunion. Et cela, eh bien, c'est important de le savoir. Hein. C'est vrai que Dieu pardonnera, peut pardonner, mais pourquoi lui désobéir, si c'est clair? Alors, il semblerait que c'est pas clair, ce passage. Il y a des choses qui sont claires, et on les fait quand même. Il y a des choses qui ne sont pas claires, et on les fait quand même. Il y a le désir de faire la volonté du Seigneur. Je pense à Naaman, le Syrien, qui a été purifié de sa lèpre, et qui a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu dans l'univers, le Dieu d'Israël. Et il a dit au prophète, il lui a dit, il y a juste une chose, c'est que quand je vais avec mon roi, lui qui était ministre, je m'incline dans le temple de son idole. Et comme je tiens son bras, ben, je m'incline. Et le prophète lui a dit, va en paix. Donc, voilà, c'était en quelque sorte une dérogation, mais parce qu'en fait, son cœur n'était pas impliqué, il avait compris des choses, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, et d'autres choses. Donc, là, on pourrait dire, ben voilà, ça me permet de faire ce que je veux, je vais trouver des petites déceptions ou des choses comme ça. Mais, il faut toujours placer la parole de Dieu dans son contexte et voir ce qui est clair. Et là, il me semble que c'est clair. Et vous savez, ce passage, il est dit que de ne pas se mettre dans un joug qui est étranger avec un inconverti. Et je me rappelle du père d'une chrétienne qui était chrétien aussi, sa femme aussi, et il avait une entreprise de cheminée. Et un jour, eh bien, il a pris un associé inconverti. Et au bout du compte, finalement, il s'est retrouvé floué par l'associé, ruiné. En fait, il a trompé. Alors que, eh bien, c'était lui qui avait fondé cette entreprise. Elle marchait bien. Il avait besoin d'aide, d'associé. Et voilà ce qu'il a fait. Mais peut-être que s'il avait lu ce passage, il n'aurait pas voulu s'associer avec un infidèle, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui, vous savez, souvent si c'est pas Dieu, c'est l'argent qu'on aime. Hein. Donc, il a préféré rejeter l'amitié, la sympathie, la confiance pour avoir l'argent. Alors, la parole de Dieu est là pour nous avertir. Et donc, il est important de la suivre. C'est ce que nous indique ici ce qu'il faut faire. Et donc, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Alors finalement, c'est pour tout que nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Alors, je dirais absolument tout. Vous vous rappelez peut-être des Gabaonites, quand Josué a conquis le pays de Canaan, il y a les Gabaonites qui se sont fait passer pour des étrangers éloignés, déguisés, et finalement, alors que Dieu avait dit qu'il ne fera aucune alliance avec les peuples de Canaan, eh bien il a fait une alliance avec les Gabaonites parce que, eh bien, il a été trompé, il n'a pas consulté l'Éternel. Donc, après, eh bien, ils sont devenus une écharde, hein. Ils ont dû être esclaves, mais ils étaient là, hein. C'était en fait des ennemis. Mais, donc, leur tort, c'était de ne pas avoir consulté l'Éternel pour quelque chose. Ou ils ont jugé avec leur sagesse, Josué, les chefs, comme quoi, eh bien voilà, eh oui, ils viennent de loin, voilà, ils sont comme ça, ouais, voilà, on fait une alliance. Et c'est le Seigneur qu'il fallait consulter. Alors, là, ils ont manqué de sagesse. Alors, on peut lire quelque chose qui peut nous concerner. Alors, c'est dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors, si nous manquons de sagesse, le Seigneur nous donnera la sagesse pour savoir sa volonté. Et dans Romains 14, 23, il est dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Alors, je vous lis encore quelques conseils, mais en fait, pour nous, c'est une invitation, hein, à être fidèle au Seigneur et à vivre pour lui. Alors, c'est dans Proverbe 3, 5 et 6, il est dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà une promesse que le Seigneur nous fait à chacun de nous. Alors, ce qui est important de comprendre et de savoir, c'est que le Seigneur ne s'amuse pas avec nous. Ce n'est pas un sadique, hein, qui dirait, ben, on va voir celui-là, s'il va faire la volonté de que je veux, que je lui conseille. Est-ce que il va pas tomber? C'est pas ça, c'est le diable qui fait ça. Le Seigneur, lui, il veut vraiment nous révéler sa volonté. Il y a beaucoup de passages qui le disent, hein. Alors, je peux juste vous en citer un, hein. Alors, c'est dans les psaumes, psaume 25, mais c'est un parmi tant d'autres, hein. Psaume 25, versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, mais c'est une confiance dans notre Dieu qui veut nous montrer simplement sa volonté. Il le fera toujours, seulement si c'est important pour nous, hein, et si nous lui demandons. Alors, si ce n'est pas important, si nous négligeons, comme un peu Josué à ce moment-là, hein, juste à ce moment-là, mais sinon il était fidèle, eh bien là, il a commis cette erreur. Alors, ça nous engage à avoir un optimisme merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Je pourrais rappeler ce verset. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sinon, bien, c'est un manque de foi. Et je peux dire que ce n'est pas perdre son temps que de chercher la volonté de Dieu. Autant de temps qu'il faut. C'est perdre son temps que de ne pas faire la volonté de Dieu. Ça, c'est sûr. Et donc, sachons que il n'y a pas de hasard, ni de coup du sort, ni de malchance. Mais il y a souvent du péché, de la rébellion, de l'imprudence, du manque de sagesse. Alors là, mettons-nous en règle, s'il le faut. Mais sachons que Dieu prend soin de nous. Il est notre Père. Et peut-être que si c'est besoin, s'il le faut, il va nous purifier. Il va purifier notre foi. Il va nous montrer que c'est pas bon de pas faire sa volonté. Et à ce moment-là, nous allons apprendre des leçons pour avoir désobéi. Mais ce sera pour purifier notre foi. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour nous rendre parfaits à l'image de Christ. Et ça, c'est un merveilleux dessein que Dieu a envers nous qui croyons. Ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur est merveilleux. Son nom est merveilleux et magnifique. Il est au-dessus de tout. Et donc, il veut que nous lui ressemblions. C'est quelque chose, je dirais, d'incroyable, entre guillemets. On le voit pas. On ne l'imagine pas. Et pourtant, c'est la vérité. Et je crois qu'on le croit parce qu'on l'a lu. Eh bien, c'est son œuvre qu'il fait en nous tant que nous sommes sur cette terre. Mais n'oublions pas que le diable a des plans contre nous et souvent ils sont à longue échéance. Quand c'est à courte échéance, on peut le voir peut-être. Mais à longue échéance, des fois il prépare des choses, il prépare des pièges pour un adolescent quand il sera adulte dans la mauvaise voie qu'il a prise. Et donc, sachons demander au Seigneur la sagesse, soyons sages et confiants en Dieu. Pour nous, les imprévus seront tout de suite réglés si nous faisons confiance au Seigneur. Alors, rappelez-vous Jonas. Il a été envoyé à Ninive pour qu'il prévienne les Ninivites que Dieu allait détruire la ville à cause de son impiété. Eh bien, Jonas, qui était dur par rapport justement à la grâce infinie de Dieu et à l'amour, eh bien, il ne voulait pas annoncer ce message de peur que les Ninivites se convertissent, se repentent. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu ? Il a fallu qu'il soit jeté et qu'il vive 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Et c'est son épreuve pour avoir désobéi. Et finalement, ce qu'il ne voulait pas faire, il a fait quand même. Et donc là, on voit la grâce de Dieu envers les Ninivites, mais aussi envers Jonas. Le poisson a recraché Jonas, et lui, il a prêché le message. Et donc, il a eu cet effet que Ninive a été sauvé. Alors, on peut voir que Dieu s'occupe de nous, et si on veut le servir, eh bien, il va rectifier quelquefois les choses que on refuse, que l'on ne veut pas, les choses que lui veut, par rapport à celles que peut-être nous, on préfère. Alors, je me rappelle avoir lu l'histoire d'un évangéliste, Ruben Toré, et alors il disait, il avait beaucoup d'efficacité dans son ministère, il prêchait, beaucoup d'âmes se convertissaient, et bien alors, à un moment donné, je crois que c'est les Australiens ou en Nouvelle-Zélande, qui voulaient qu'ils viennent pour évangéliser. Et lui il a dit, je ne peux pas, j'ai un emploi du temps pour un an. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui me disait ça aussi. J'ai un emploi du temps pour un an. Je ne peux pas venir d'ici un an. Voilà. Et alors, les chrétiens d'Australie ont dit, on vous fera venir par la prière. Et ils ont prié. Et puis, peu de temps après, il est venu. Alors, son emploi du temps a changé. Et c'est parce que lui, il voulait servir Dieu. Et que, justement, Dieu voulait que ça se passe comme ça, et non pas comme lui voulait, et plutôt comme les Australiens voulaient. Voilà. Il y avait ce besoin. Rappelez-vous Paul qui voulait aller en Asie, puis non, tu vas aller à Philippe. Voilà. Il a reçu la direction du Saint-Esprit. Et pour nous, bien, ça sera la même chose. Confions à Dieu toutes choses. Notre emploi du temps, alors pour un jour, pour une semaine, pour un mois, pour une année, pour notre vie. C'est ce qu'il veut. On veut le servir et lui, il veut qu'on soit disponible pour lui. Alors, demandons au Seigneur pour notre lieu de résidence. Des fois, c'est très important de savoir où on va, puisqu'on va vivre longtemps dans cet endroit. Notre travail, parce que si c'est important, on va fréquenter certaines personnes, on va faire certaines choses qui vont nous prendre du temps. Pour un achat, Jacqueline nous a donné un exemple. Donc, elle a eu cet objet qui était pour elle un sujet de prière, et le Seigneur a répondu pour cet achat. Alors, rappelez-vous que autrefois, j'avais partagé que j'avais prié pour je devais aller au marché ou non, parce que je ne savais pas s'il allait pleuvoir, et puis il a plu. Le Seigneur m'a gardé d'y aller. Alors, j'ai aussi cet exemple de Joseph et Ilse, qui ont eu un accident de camping-car. Et alors, ils voulaient acheter un autre camping-car. Et alors, ils ont donné des arrains ou des acomptes, je ne sais pas. Et alors, ils avaient déjà le nouveau camping-car. Eh bien, ils ont demandé la volonté du Seigneur, et puis ils ont eu la conviction qu'ils ne devaient pas prendre ce camping-car. Et donc, les sommes leur ont été remboursées, alors qu'elles auraient pu être perdues. Donc, le Seigneur les a guidés parce qu'ils se mettaient en peine de la volonté du Seigneur. Donc, ça, il n'y a pas tellement de temps que ça. Alors, laissons-nous guider en demandant au Seigneur. Alors, de nos jours, on veut se faire aider et guider par toutes sortes de choses, mais un peu moins par le Seigneur. C'est-à-dire qu'on met la priorité sur d'autres choses que sur le Seigneur. Alors, quelquefois, on fait confiance au GPS pour qu'il nous guide. Le mien, il est pas à jour. Alors, chaque fois, je me trompe. Mais, grâce à Dieu, on trouve toujours la route. Mais ça me rappelle, il y a quelque temps, il y avait un camping-car énorme qui, à Banyuls, devait aller au camping et, grâce à son GPS, entre guillemets, est passé par la route de la gare. Donc, je dis ça parce que certains connaissent. Et donc, c'est une voie très étroite. Et le camping-car, il était énorme. Et à un moment donné, il y a un angle, un tournant en épingle avec une côte raide. Et là, il était coincé. Alors tout le monde est venu, moi j'étais en haut, je voyais ça. Et en fait, c'était le GPS qui l'avait amené là. Parce que c'était le chemin le plus court pour aller au camping. Mais il n'y avait aucune possibilité pour qu'il passe, parce qu'il n'y avait pas la place pour lui. Et donc, ne faisons pas confiance nous-mêmes à des choses qui semblent sages, logiques, parce que peut-être elles n'existent pas notre foi, mais demandons au Seigneur chaque chose pour que ce soit difficile ou pas difficile, que ce soit quelque chose qui nous va, qui nous aille ou non, nous demandons au Seigneur toujours à lui de nous guider, de demander toujours sa volonté. Alors, dans la parole de Dieu, il nous est dit de prier sans cesse. Peut-être que ça veut dire de demander sans cesse la volonté de Dieu, dans chaque pas que nous faisons. Et de toute façon, je peux lire Philippiens 4, 6 et 7, il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le chrétien ne doit pas être une proie facile. Craindre sans cesse le pire, de tomber, de se faire avoir par le malin. En fait, il tient la main du Seigneur. Et là, il est rassuré. Alors, je me rappelle quand j'étais au collège. Alors, moi, j'étais normal, quoi, petit ou normal. En sixième, je rentrais peut-être. Et il y avait quelqu'un qui avait connu mon père, hein, parce qu'il faisait des travaux chez lui. Son père aussi était maçon. Et donc, lui, c'était déjà peut-être un quatrième ou un troisième, mais c'était une baraque. Et là, il avait sympathisé avec mon père. Il savait que j'étais au collège. Et puis, il avait dit, s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu viens me voir. Alors, moi, ben, j'ai retenu ça. Et je me suis dit, ben voilà, hein, il n'y a pas de problème. Eh bien, je ne me souviens pas avoir eu besoin de lui. Mais, sinon, il était là. Et donc, je pense que avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux. Quelquefois, eh bien, on sollicite son intervention, sa présence, parce qu'on a besoin de lui. Et on ne s'inquiète pas. Et quand tout va bien, eh bien, on se réjouit, on le loue. On fait des actions de grâce parce que finalement, comme il est dit dans Romains 8, 28, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, peut-être que dans notre cheminement, nous aurons besoin de demander des conseils aussi à d'autres quand ce n'est pas clair, hein, à des chrétiens qui sont fidèles, à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il est dit dans Proverbe 12, 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Dans le Proverbe 19, 20, il dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Et donc, il est important de demander la volonté du Seigneur pour toutes choses. Et de prendre le temps s'il le faut. Quelquefois le temps est contre nous, mais le Seigneur, il le sait. Et nous pouvons lui faire confiance. Dans le psaume 127,1, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, à quoi bon faire quelque chose si ce n'est pas le Seigneur qui est là pour le faire avec nous, pour nous guider, pour nous soutenir. Mais dans 1 Corinthiens 15, 58, nous pouvons lire. Alors ça c'est important parce que souvent on regarde à ceux qui ont un ministère de la parole, ceux qui sont en vue, ceux qui, disons, comment dirait les acteurs, pètent l'écran parce qu'ils sont au milieu tout le temps. Eh bien non. Pour chacun de nous, eh bien, il est dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, à tous, ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur nous fera à chacun fructifier, et ce sera pour sa gloire. Alors nous allons prier.